Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Jinune Podcast, le média consacré à l'entrepreneuriat féminin, produit par Jinune Woman. Partons ensemble à la rencontre de ces femmes qui ont osé se lancer et qui nous livrent ici leur parcours et leurs apprentissages. Au programme, une bonne dose d'inspiration et de motivation, mais aussi des conseils pour vous accompagner dans cette fascinante aventure qu'est l'entrepreneuriat. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Aline. Bonjour Aline.
Bonjour.
Pour commencer, est-ce que tu peux peut-être te présenter et puis nous raconter ton parcours dans les grandes lignes, voilà, nous introduire aussi ton projet, tes activités.
Avec grand plaisir. Donc je suis Aline Chapuis, je suis une chanteuse et songwriter qui vit en Valais, d'origine vaudoise. Et depuis un peu plus de 10 ans maintenant, j'ai créé un projet professionnel comme auteur-compositeur-interprète qui m'a amené à sortir déjà 2 albums en 2013 et 2016 et un troisième en préparation. Et puis j'ai plusieurs cordes à mon arc, ce qui fait que je ne fais pas uniquement de la chanson, j'enseigne aussi à l'école d'infirmières parce que dans une autre vie j'étais infirmière en psychiatrie. Et je crée des projets de médiation culturelle où j'utilise l'art comme médium pour permettre à des gens dont on n'entend pas la voix d'être entendus. C'est un projet qui s'appelle les porte-voix. Et puis autrement, je développe aussi des activités un peu plus, je ne sais pas encore très bien comment les appeler, spirituelles, sacrées, je ne sais pas, mais autour du tambour et puis de musique plus intuitive ou spontanée.
Donc toujours la musique en fil conducteur.
Toujours.
Depuis que tu es enfant.
Et toujours la voix, je pense la voix aussi qui était en fil conducteur depuis toujours.
Et justement, quand on s'est parlé la première fois, tu me disais que tu avais mis du temps en fait à te rendre compte que tu étais devenue entrepreneur, parce qu'en fait tu avais monté une structure entrepreneuriale au final, parce que tu avais du mal à réconcilier ces notions d'art et de business qui te semblaient complètement aux opposés. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Enfin, c'était quoi ton état d'esprit par rapport à ça?
Oui, alors avec plaisir. En fait, je crois que je me pose toujours la question aujourd'hui pour être totalement honnête. Je ne me suis pas rendu compte que j'avais créé effectivement une petite entreprise parce que au début, j'ai fait des projets et je les ai réalisés avec les moyens du bord, j'ai envie de dire. Et puis à un moment donné, s'est agi d'avoir une structure entre autres pour pouvoir faire des demandes de subventions. Et j'ai créé une compagnie, mais qui est une association, qui est la structure la plus facile, on va dire, à créer. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvée effectivement à faire de la compta, à chercher de l'argent, à faire des contrats, à engager des gens, à devoir développer quelques connaissances un peu basiques pour faire ça bien, à devoir contracter une assurance accident pour les gens que j'employais, à devoir faire des déclarations à l'AVS. Mais je ne me suis pas rendu compte en fait que tous ces éléments, c'était ce qu'on devait faire quand on gérait une petite entreprise.
Absolument.
Et c'est après coup, tout d'un coup, en discutant aussi... aussi en discutant avec des genuines, je me suis rendu compte que tous ces éléments que je viens de citer étaient effectivement les ingrédients ou les signes distinctifs d'une petite entreprise. Mais je ne suis pas sûre de me considérer comme une entrepreneuse. Je me considère comme une artiste qui est bien obligée, on va dire, de gérer un certain nombre de choses pour essayer de faire tourner son projet.
Et tu l'évoquais, mais Jinune Woman, à quel moment tu as rejoint le réseau, en l'occurrence?
Oui, une année à peu près.
D'accord.
Je pense que j'ai bientôt fêté mes 1 an. Je ne sais pas exactement quand c'était. Je pense que c'était fin octobre. Ça doit faire à peu près une année. Mais il s'avère que ça fait 2 ans que j'avais été à une séance d'information et que pendant une année, j'ai hésité. Et j'ai eu plein de contacts avec Rosalia, qui était l'ambassadrice du Valais. Et je lui envoyais des messages, je l'appelais, je lui disais « Mais Rosalia, je ne sais pas si je dois vous rejoindre, j'hésite. » Parce qu'en fait, quand j'allais voir les profils des genuines, je voyais des artisanes, je voyais des gens qui avaient plein de profils, mais je ne voyais pas beaucoup d'artistes. Et je pense que c'est lié aussi à cette position que j'ai évoquée précédemment, c'est que je me disais « Mais en fait, qu'est-ce que ça va m'apporter ?» Et puis l'année passée, je me suis dit, bon, bah, maintenant, arrête, va voir. Au pire, au bout d'une année, tu t'en iras et puis tu auras dépensé un certain montant que tu étais capable de claquer dans une boutique de vêtements. Donc, pourquoi pas, voilà. Et puis, je ne vais pas repartir. J'ai du plaisir parce que souvent, ça me dynamise. Et je fais des rencontres et je vois que je peux partager des préoccupations. C'est peut-être un mot un peu trop fort, mais des interrogations, des réflexions avec des femmes qui sont dans des domaines complètement différents du mien et ça fait du bien. Moi, ça m'a beaucoup aussi aidée à pouvoir présenter mon projet. D'être capable de décrire en quelques mots qu'est-ce que je fais. Parce que je me souviens qu'une des premières... Avant de rentrer dans les Genuine, j'avais été au 1 an des Genuine Valley. Et puis, passer ma soirée à rencontrer des gens qui me disaient « Oui, mais au fait, t'es qui, puis tu fais quoi ?» Puis je me disais « Oh, mais au secours !» En plus, je suis timide, donc c'était vraiment compliqué. Donc ça m'a vraiment appris à oser parler de mon projet sans avoir le sentiment que je suis gonflée, prétentieuse ou que je me la pète ou des choses comme ça, quoi. Puis après, bah, dans ce réseau, il y a aussi les permanences. Et c'est vrai qu'assez rapidement... On m'a demandé si je serais d'accord de faire quelque chose autour de la voix. Je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas? C'est vrai, c'est quelque chose que je pourrais offrir. Je pense qu'à la fin de cette année, j'approcherai peut-être des 40 ou plus de 40, 40 et 50 permanences offertes au réseau. Okay. Et puis j'adore.
Et tu parlais avant de tout ce travail invisible, un travail de l'ombre, oui. Qui est celui de l'entrepreneur qui va de l'administratif au contrat, tu le mentionnais avant, la promotion aussi, la recherche de subventions.
Oui.
Est-ce que ça, tu fais toute seule ou tu te fais accompagner ou entourer tout du moins?
Alors, ça dépend des projets. Bon, il y a des choses que je fais toute seule, les contrats, je fais toute seule. Ben, il y a beaucoup de choses que je fais seule, mais disons que dans certains projets, ça m'arrive ponctuellement de me faire aider. Par exemple, pour un projet qui est en cours cette année de médiation culturelle avec des adolescents dans une clinique psychiatrique, ben là, j'ai engagé une administratrice à un moment donné pour chercher des fonds parce que j'arrivais plus à tout mener de front et puis que je savais pas où demander et puis que la vie a fait que j'ai rencontré cette femme et puis qu'il s'est avéré qu'elle faisait ce genre de choses, donc je lui ai demandé. Mais c'est toujours une histoire de budget parce qu'après, ben, c'est des services qui se payent et puis j'ai... Par exemple, je disais tout à l'heure que j'avais un troisième album en gestation. Ben oui, je rêverais d'avoir une attachée de presse, quelqu'un qui me cherche des sous et quelqu'un qui fasse plein de choses. Mais je veux dire, j'ai déjà juste les sous pour payer l'album, j'ai pas les sous pour ça, quoi. Mmh. Donc, quand il y a les sous et que je suis un peu débordée, par contre, j'ai une personne qui m'aide depuis plusieurs années maintenant, c'est au niveau de la comptabilité, où j'ai une femme que je connais depuis très longtemps et qui me fait ma comptabilité gracieusement. Et puis c'est chouette parce que comme c'est une fiduciaire, eh bien elle a les stempels, enfin pour la loterie et tous ces trucs là. Et puis par contre je tiens la compta tout au long de l'année et puis après je lui donne un fichier et puis elle se débrouille avec ce que j'ai écrit dans les bonnes colonnes et des fois dans les mauvaises colonnes, ça arrive.
Chacun ses talents. Hein,
exactement. Les chiffres, c'est pas mon truc.
Mais est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, un artiste peut se passer de cette casquette d'entrepreneur? Parce que tu disais que tu te définis plus comme une artiste qu'une entrepreneur, mais tu pourrais t'en passer au final de cette casquette-là?
Non, parce que la situation est actuellement encore plus. La situation est difficile. Et au niveau financier, c'est vraiment pas évident. Et je pense qu'on passe toutes et tous par là, de devoir gérer en fait toutes ces différentes facettes. Après, c'est clair que y a des musiciens et des musiciennes qui ont à un moment donné peut-être plus d'opportunités et puis qui peuvent engager quelqu'un, ou alors qui font aussi le choix de mettre de l'argent pour ça. Et c'est un choix que j'ai encore... Enfin, je l'ai fait pour des photos, pour du visuel, pour des choses comme ça. pour de la com, mais c'est vrai que je ne l'ai encore pas fait pour, je sais pas, par exemple, avoir un booker qui me trouve des dates. Les échanges que j'ai pu avoir avec des collègues musiciennes que je connais, c'est qu'effectivement, ça, tout d'un coup, ça a boosté leur carrière.
Ouais, leur visibilité.
Puis voilà,
leur
voilà. Ouais. Mais après, ben voilà, il faut aussi avoir un projet qui est original, qui ne réplique pas d'autres projets qui sont déjà faits X fois. Et puis, je dois avouer que le fait de faire tout toute seule, il y a aussi... Enfin, pour moi, par moments, il y a aussi des avantages parce que ça veut dire que c'est mon bébé. Enfin, j'ai une espèce de truc là de merlouve.
C'est
viscéral. Donc, je n'ai pas besoin de négocier avec des gens. Et là, c'est vrai que le projet d'album, bah, pour la première fois de mon existence, je travaille avec des arrangeurs. Donc, je ne vais pas faire les arrangements. Il y a un producteur, il y a un réalisateur. Enfin, il y a toute une équipe à Paris qui bosse avec moi autour de ce projet. Mais il n'y avait que cette équipe-là et ces gens-là à qui je pouvais donner le bébé en leur disant « Bon, maintenant, il faut que vous le fassiez grossir. » Donc, comment je pourrais dire ça ? Il y a quelque chose d'ambivalent entre tout faire soi ou
savoir déléguer
certaines choses.
Et tu disais avant, en termes d'investissement financier, ben forcément, c'est assez conséquent, vu que voilà, les infrastructures nécessaires, et puis ta promotion, etc. Et on entend souvent... certainement à tort, mais que l'artiste avec un grand A, voilà, où tout individu qui vit d'une passion a un petit peu du mal à se rémunérer parce qu'il ou elle n'a pas forcément cette orientation business et peut parfois se perdre un petit peu dans la jungle qu'est le monde de la promotion, enfin, du marketing, etc. Est-ce que d'après toi, il y a un rapport difficile à l'argent en tant qu'artiste ou c'est une conception un petit peu erronée?
Je ne sais pas s'il y a un rapport difficile à l'argent. Ça, je ne pourrais pas répondre à cette question. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est difficile d'avoir de l'argent pour les projets. Ça, c'est évident. Et puis moi, je me rends compte, et puis c'est quelque chose que je vois aussi autour de moi. Par exemple, si j'engage un musicien et puis que le cachet, il n'est pas très élevé, et ben, surtout si c'est quelqu'un qui ne fait que ça, ben, je vais avoir tendance à lui donner les sous. Et puis moi, je vais me prendre un peu de sous pour l'essence que j'ai mis dans ma voiture et puis basta, quoi. Et puis ça, c'est quand même problématique comme posture, parce que ça veut dire que si on veut faire progresser un projet et puis qu'il n'y a jamais de l'argent qui rentre, ben voilà. Après, moi, j'ai la chance d'avoir une autre activité professionnelle. Donc, des fois, humainement parlant, je ne dirais pas financièrement parlant, mais humainement parlant, ben, je trouve que voilà, si je donne un peu plus à l'autre... Mais c'est quand même... moi, c'est des choses où je réfléchis à ça et puis ça m'interpelle. Par exemple, je me rends compte que souvent, dans les budgets, j'oublie toute la partie préparatoire du projet. Et les projets, par exemple, de médiation culturelle, des fois, c'est un an et demi de travail avant que le projet démarre et je n'ai jamais touché un centime pour ça.
Dans le sens consciemment, parce que tu le budgétises pas ou parce que, en fait, ça ne te semble pas naturel de l'inclure ?
Consciemment, je ne sais pas si c'est consciemment, mais c'est... en fait, ce qui se passe, c'est qu'au moment où on fait ce travail, il n'y a pas d'argent. Mm-hmm. Et puis après, on fait le budget du projet. Et puis là, bien entendu, j'oublie de mettre ces heures-là. Et puis après, selon l'argent qu'on trouve, ben après il faut encore refaire le budget. Et puis on n'essaye jamais de toucher au salaire. Hein. On doit pas toucher au salaire, donc on va toucher ailleurs. Et puis de fil en aiguille, ben voilà quoi. Mais c'est vrai que je me suis dit que le prochain projet que je montais, où il y a ce travail préparatoire, je vais essayer. C'est les challenges que je fais à moi-même.
Il faut absolument.
Je me dis, je vais essayer de pouvoir comptabiliser quelque chose par rapport à ça. Parce qu'en fait, après, moi, je fonctionne en circuit fermé. C'est-à-dire que l'argent que je gagne avec mes projets, ça ne va pas sur mon compte salaire. Ça va, comme j'ai un
ça
salaire,
sur
voilà,
l'association.
Je mets... Alors, il y a des choses qui restent sur l'association, mais si je suis payée, je mets ça sur un autre compte. Et puis après, je réinvestis ça... Dans les projets, l'album par exemple, ben, ça me permet d'avoir un peu d'argent pour pouvoir faire ça, quoi.
Et comment tu définis, alors tu n'as pas des tarifs vu que tu n'offres pas une prestation en tant que telle, mais disons que si tu es invité à, je ne sais pas, offrir une performance lors d'un événement ou mener à bien un projet, comme tu disais, de médiation culturelle, est-ce que c'était simple pour toi de définir tes tarifs ou bien au contraire, c'est le trou noir et c'est hyper complexe en tant qu'artiste?
En réalité, il y a quand même des tarifs.
D'accord.
Il y a quand même des tarifs qu'on peut trouver soit par les syndicats. Donc, on sait quand même que pour une soirée, on peut demander tant que si c'est les festivals ou si c'est un concert. Enfin, il y a quand même des points de repère. Donc, au début, je demandais très peu parce que je me disais, j'osais pas demander le prix que ça vaut. Puis, je me suis fait gronder par des amis musiciens qui m'ont dit, non, mais tu peux pas casser les prix comme ça. Donc, maintenant, je demande. Et puis, oui, je sais. Je sais, et puis quand je dois monter un budget pour un projet, je sais aussi qu'il y a un tarif horaire qu'on peut demander. Bon, après, comme je suis dyscalculique, des fois, je fais des espèces de boulettes dans mes budgets, mais ça, c'est une autre histoire, quoi. Donc oui, je sais combien ça vaut, je sais combien on peut demander. Et puis maintenant, je le demande. Après, c'est clair que ça, c'est la partie de mon côté. Des fois, de l'autre côté, les gens ils vont dire, moi, je peux te donner que ça.
Oui, après, c'est une négociation.
Voilà,
aussi.
Ouais. Donc c'est une négociation. Ouais. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? L'idée étant quand même... par exemple, j'ai eu plusieurs fois des contacts avec des options pour faire des petites tournées en France. Puis là, c'est très compliqué comme artiste suisse parce que les tarifs, les cachets sont beaucoup plus bas. Et je me souviens d'une nana, elle était hyper chou. Elle voulait me faire venir dans la région de Toulouse. Mais au bout d'un moment, je lui ai dit, mais je ne peux pas venir, ça va me coûter... des centaines d'euros
par rapport à ce que je vais faire rentrer. Quoi.
Mais je vais rien faire rentrer, ça va me coûter de l'argent pour venir jouer. Donc à un moment donné, ça joue pas. Donc après oui, il y a des négociations, mais c'est vrai que moi je vois dans les festivals, il y a pas besoin de négocier, ils ont des tarifs et puis
c'est comme ça.
Et puis c'est comme ça et puis ça fonctionne quoi.
Ouais. C'est vrai que c'est jamais évident de savoir se rémunérer à sa juste valeur. Surtout quand tu as quelque chose qui est intangible. Si tu as un produit et que tu as des coûts de conception, de fabrication avant, tu calcules tes marges. Quand c'est quelque chose d'intangible comme l'art, et en plus ta propre personne, c'est toujours difficile.
Oui. Après, c'est intéressant ce que tu dis par rapport à l'histoire de quand c'est ta propre personne. Par exemple, quand j'avais sorti mon deuxième album, j'avais été confrontée à une chose que j'avais trouvée vraiment difficile par rapport à tous les contacts avec la presse. Le premier album, j'avais un distributeur, c'était lui qui avait fait les contacts presse au moment de la sortie de l'album. Et puis, j'avais eu des radios, des journaux, des trucs comme ça. Puis, le deuxième album, je n'avais pas de distributeur. Et du coup, c'est moi qui ai fait ces démarches. Je trouve que ce n'est pas évident quand tu as l'assistante d'un journaliste qui te dit « Ah non, mais de toute façon, on ne vous prendra pas parce que monsieur X n'aime pas ce que vous faites ». T'es un peu genre, gloups, bonne journée, au revoir. Ça fait des semaines, des mois que tu portes ça, c'est ton bébé. Boum, quoi. Donc là, c'est vrai que je me dis, pour le troisième album, si tout d'un coup, je peux avoir une attachée de presse, au moins pour la sortie, au moins pour ça, peut-être que ça peut être pas mal. Et puis, elle a aussi un carnet d'adresses. Et puis, elle sait. Puis, c'est pas moi qui dis « Oui, allô, j'ai fait un super CD. Prenez-le. »
Enfin,
puis, s'il y a ses retours, elle filtre.
Tu les entendras jamais, disons.
Voilà, c'est ça. Ouais. Elle va me dire « C'est pas possible parce que… » Voilà. Donc, ça, je trouve que c'est difficile.
Non, effectivement, d'avoir un intermédiaire qui joue le rôle du facilitateur. Non seulement psychologiquement, ça t'aide. Et puis, effectivement, comme tu dis, il y a un carnet d'adresses. Donc, ça, c'est plus facile.
Voilà, puis il va peut-être savoir, cette personne, si j'engage quelqu'un comme ça, va savoir, pour ce type de musique, il faut aller dans telle émission, il faut demander à tel journaliste. Mmh. Alors moi, j'ai un bon réseau de journalistes que j'ai créé en 10 ans, où je sais que, je ne sais pas, à la radio, je sais pas, à Option Musique, par exemple, je sais très bien que si je contacte tel journaliste, il va faire quelque chose. Mais il y a d'autres endroits où
c'est plus complexe.
Plus compliqué, quoi.
Et comment tu organises ton temps entre ton emploi et tes activités, à la fois en tant qu'artiste, par exemple, production de ton prochain album, et tes activités où je vais dire tes prestataires de services, même si j'aime pas trop le terme par rapport à l'art, mais où tu vas offrir une prestation, par exemple, un festival ou une performance ailleurs. Comment tu fais tes choix pour combiner passion d'un côté et puis travail qui te rémunère ?
Alors, j'ai de la chance parce que j'ai beaucoup de liberté dans mon travail qui me rémunère, on va dire. Ce qui fait que je peux j'ai une liberté d'organisation. Je n'ai pas une liberté sur tout, parce que quand je dois aller donner un cours, il faut que j'aille le donner. Mais j'ai une grande liberté pour organiser mon temps. Ce qui fait que j'essaye de partager ma semaine. En fait, j'ai décidé qu'il y a des jours de la semaine où c'est mon travail, et puis il y a des jours de la semaine où c'est mon deuxième travail. Et puis, je tiens à ça. Après, ça arrive que je doive donner un cours un jour qui n'est normalement pas dévolu à l'école. Bon, j'y vais, quoi. Donc ça, c'est une chose. Puis j'ai un côté très chaotique dans la création. Il y a des moments où c'est vraiment comme ça, mais j'ai un côté très structuré par moment. Donc, je pense que je dois faire le switch. Donc, j'ai des jours dévolus à la musique, à l'art, et puis j'ai des jours dévolus à l'école. Ensuite, j'ai la chance de pouvoir aussi travailler depuis la maison. Et puis ça, c'est vraiment une chance parce que ça veut dire que des fois, je bosse pour l'école, mais tout d'un coup, il faut que je fasse une heure, un autre truc, puis je peux le faire sans souci. Après, y a les week-ends aussi qui peuvent être utiles à tout ça. Et puis après, par rapport à mes projets artistiques, moi, je suis la reine des carnets, donc j'ai des carnets pour tout. Il faut que ce soit dans le bon carnet, autrement, c'est la fin du monde. Mais oui, je me dis, là, je bosse sur ce projet. Non, c'est vraiment très structuré dans ma tête. Et puis après, y a des moments où je ne compte plus mon temps, quoi. C'est vrai que si je suis en création d'un spectacle et que j'ai 6 mois pour créer un spectacle, ça veut dire que je travaille et puis je crée. Et puis mes amis, ma foi, il faut qu'ils soient un peu compréhensifs. Non, mais c'est que je mets toute mon énergie là-dedans. Et puis à un moment donné, je me dis, je me mets à rêver de ça, à penser, à parler que de ça.
À manger ça.
Enfin non, à ne pas manger, ça c'est un peu problématique. Mais voilà. Et puis après, à l'intérieur des projets, c'est vrai que y a des moments où je vais me dire, OK, là, je fais des trucs administratifs, donc je mets ma casquette. Après, là, je compose la musique, donc je mets ma casquette de compositrice. Là, j'écris un texte, je mets ma casquette d'auteur. Là, je répète pour un concert, donc je mets ma casquette de musicienne qui répète. Il faut que je fasse l'affiche pour la Suiza, je mets ma casquette. Donc voilà, passe ma vie, en fait, à changer de casquette.
Chef d'orchestre entre plein de,
voilà,
plein de casquettes.
Voilà, exactement. Ouais. Moi, j'ai beaucoup travaillé en psychiatrie, donc...
j'allais dire, c'est presque schizophrène, tu sais.
Oui, c'est bien. Mais c'est vraiment ça. Et puis, en fait, je pense que c'est de nouveau une histoire pour moi de structure. Parce que ça veut dire que si je fais tout... par exemple, pour que je décide qu'une chanson elle est terminée, à un moment donné, il faut que je m'arrête. Donc, à un moment donné, le texte est fini, la musique est finie. Donc, on revient. Je fais les arrangements. Mais ça veut dire que je ne fais pas de la composition. Je fais les arrangements. Alors là, j'ai des arrangeurs. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont en train de faire avec mon mémé. Ouh là là, je ne sais pas. C'est compliqué, ouais. Mais je saurai dans une semaine. Mais voilà, donc c'est vraiment cette histoire de casquette. Et ça, j'ai mis longtemps, ça fait pas très longtemps que j'ai vraiment pu découper ça en tranches, puis de me dire, OK, là, je fais de l'administratif.
Ouais, j'agis sur ça. Ouais.
Voilà.
Et justement, en termes de structure, est-ce que tu es quelqu'un qui a un peu un plan où tu vas essayer de partir à la recherche d'opportunités, où tu le fais au spontané au fur et à mesure que les opportunités viennent? Au contraire, voilà, tu es très proactive.
J'essaye, alors au niveau de la au niveau de ça, ça c'est une question en plus par rapport à trouver des dates par exemple pour jouer,
oui,
ou des choses comme ça.
Je me doute que t'as pas un business plan parce que ça se prête pas du tout, mais est-ce que t'as une structure en termes de dates par exemple, ou de projets que tu peux développer dans le domaine artistique, où tu te dis je vais absolument faire ça, donc je vais tout mettre en œuvre pour le développer et contacter les bonnes personnes?
Un peu les deux, je dirais que j'essaye d'avoir une structure, j'essaye de contacter les salles ou les théâtres au bon moment, puis des fois X années de suite, puis ça débouche sur rien, et puis j'essaye, mais c'est pas là que peut-être que je suis la plus douée, donc je lance un appel, s'il vous plaît, si quelqu'un peut m'aider gratuitement, ça serait super. Non, mais voilà, après, oui, si je décide de faire un truc, je le fais. Là, par exemple, pour donner une idée, dans les différents projets que j'ai entre autres un duo transdisciplinaire avec un vidéaste. Et ça fait 2 ans maintenant qu'on bosse sur une performance visuelle, poétique et sonore. qui a été repoussé à 2021 dans tous les festivals parce que la situation actuelle fait que. Mais on sait, on lâche pas le truc, quoi. Et on sait que ça va, à un moment donné, aboutir et que peut-être ce temps en plus, il joue aussi en la faveur de la création, de développer quelque chose d'encore plus original, abouti, etc. Donc voilà, là, j'ai aucun doute. Je sais juste pas quand, mais j'ai aucun doute qu'on va le faire. Okay. Et puis, chaque fois qu'on en parle, les retours, on sait qu'on tient un truc. Et puis, des fois, c'est vraiment les histoires. Ce qui est compliqué, c'est la temporalité. Parce que, ben, il faudrait, ben, pour donner un exemple, par exemple, je voulais déposer un dossier à la Bourse au spectacle à Thun. Mais pour pouvoir déposer le dossier, il faut que la première du spectacle, elle ait lieu avant une certaine date. Là, toutes les dates ont été reportées en 2021, donc on ne peut pas déposer le dossier. Puis ça, c'est, voilà, ouais, c'est comme ça.
Choix, c'est comme ça.
Ouais. Donc ouais, c'est feeling. Et puis en même temps, j'essaye d'avoir un petit peu de stratégie. Mais là, je pense qu'effectivement, quelqu'un comme un booker, ça pourrait être extrêmement utile, vraiment au niveau des concerts, parce que c'est aussi des gens qui connaissent.
C'est ça. Non seulement ça te décharge,
dans cette salle, voilà, ça décharge, mais ils savent aussi que dans cette salle, ben, ils font la programmation en deux fois, qu'ils font envoyer les choses à tel moment, etc. Donc c'est pas évident de mais petit à petit on connaît un peu ces codes et puis mais là la temporalité elle va avec ce qui est en train de se produire actuellement elle va prendre des proportions encore autres parce qu'il y a des choses qui ont été reportées donc ça veut dire qu'il y a des saisons qui sont déjà bookées donc ça va reporter plus tard et ça force à être créatif aussi sur la manière dont on veut diffuser le travail artistique, en fait.
Et justement, pendant toute cette période, alors j'allais dire de confinement, mais on est toujours dans le Covid, donc de Covid au sens large, est-ce que tu t'es réinventé ou est-ce que tu as apporté des nouvelles pratiques à tes projets artistiques ?
Alors, j'ai fait des choses que je n'avais jamais faites avant. J'ai fait des vidéos que j'ai mises sur mes réseaux sociaux. J'ai même fait une vidéo solo, alors que voilà, j'avais jamais fait ça. J'ai terminé mon album, alors que c'était pas du tout prévu de le terminer maintenant. J'ai écrit beaucoup, j'ai fait de la photographie. J'ai dû inventer, oui, par rapport au projet que j'ai avec les ados. Là, au porte-voix, bah, on a dû réinventer des choses parce qu'on n'a pas pu faire certaines dates. Et puis là, on est de nouveau coincé pour la fin du projet, donc il va falloir que j'imagine... Enfin, on est trois artistes, on est en train de réfléchir comment on peut clôturer ce projet pour que ce soit chouette, quoi, avec les ados. Mais j'ai surtout... je crois que j'ai surtout utilisé la musique comme... comme je fais toujours, en fait, comme refuge, comme soutien, comme manière aussi... et d'exprimer mes émotions, mais toute la palette, hein, je veux dire, les trucs, les moments de découragement comme les moments joyeux. Et puis, étonnamment, j'ai aussi, mais ça c'est parce que des fois la vie, elle nous fait rencontrer des gens, mais j'ai aussi redécouvert le plaisir de faire de la musique avec quelqu'un qui n'est pas un musicien professionnel, et puis juste pour le plaisir de chanter du Cabrel, ouais, coin du feu, quoi.
Puis sans, ça, je trouve... Sans attendre de résultats,
voilà,
ou quoi que
voilà.
Ce soit.
Et j'ai développé, là, ça vient maintenant vraiment de ces projets plus de rituels ou de choses un peu plus intuitives et que j'appelais sacrées ou spirituelles au début de l'entretien. Quoi. J'ai de la peine à les qualifier parce que c'est des termes où dès qu'on les dit, ça enferme dans quelque chose.
T'as l'impression que c'est trop ésotérique de la perception de certaines personnes
ou... ouais, ouais, peut-être. Enfin, moi, j'assume complètement, mais je sais que je peux faire du bien aux gens avec ma voix, pas seulement en chantant des chansons. Donc, je fais des bains sonores, je fais des rituels... d'accompagnement avec ma voix et puis avec différents... instruments. Je suis musicothérapeute, donc j'ai développé aussi une pratique d'accompagnement avec vraiment tout un travail autour du son, de la vibration, et puis de comment on peut faire du bien aux gens avec ça, quoi.
Et tu disais à l'instant, tu me disais au début de l'interview aussi, que c'était difficile de, des fois de qualifier non seulement ce qu'on fait, et puis qui on est en tant qu'artiste, en tant qu'entrepreneur. Quand on s'était parlé la première fois aussi, tu me parlais de questions de légitimité, pas du tout dans la création, mais plutôt dans, dans l'art de la promotion. Comment est-ce que tu as appris à dépasser tout ça? Puis aujourd'hui, si on te pose la question, qu'est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu réponds? Question difficile.
C'est difficile parce que l'histoire de la légitimité, je me souviens quand on en a parlé, je t'avais parlé du talk des Genuines au tout début du confinement en mars. Et en fait, je pense que je me pose toujours des questions de légitimité et puis c'est peut-être pas forcément une mauvaise chose. Et comment je peux dépasser ça? C'est qu'en fait, à un moment donné, si je dois faire quelque chose, je le fais. Et je sais que dans le talk au printemps, je donnais l'exemple d'une scénographie que j'avais fait pour un spectacle. Et puis, j'ai toujours gardé le carton, la maquette que j'avais fait de la scène avec, dans un carton, parce que j'ai réussi à faire une maquette à l'échelle alors que je suis dyscalculique, que j'ai aucune idée de trucs dans l'espace et tout ça, mais je l'ai fait. Et puis, c'est vrai qu'à la fin, quand il a fallu marquer scénographie, on était deux, mais entre autres, j'avais fait la scénographie de mon spectacle. Et puis personne n'a dit, mais cette scéno, elle est horrible, on n'y comprend rien, et puis ça va nous tomber sur la tête parce que c'est mal calculé. Donc, des fois, je me dis, ok, je peux me dire, j'ai fait quelque chose, puis j'ai un sentiment de légitimité. Donc, c'est en faisant. Et puis moi, je suis une grande admiratrice de Barbara. Puis Barbara, elle écrivait dans toutes ses loges, j'ai peur, mais j'avance. Donc, je lui pique sa maxime, parce que je crois que j'ai peur tout le temps. Et que je doute tout le temps, et puis, mais que j'avance quand même, et puis que du coup, y a des moments où tout d'un coup j'ai confiance, et puis l'instant d'après, je suis là en train de me dire, t'es complètement cassée, ça va pas fonctionner, t'auras... Ouais, là j'ai des projets, un projet en cours où j'ai toujours pas bouclé mon budget. Bon, voilà quoi.
Mais ça va finir par se faire quand même.
Enfin, ça finira d'une manière ou d'une autre, ça va finir par se faire. Et puis je pense qu'au fil là de ces un peu plus de 10 ans, une dizaine d'années qui se sont écoulées maintenant, je prends quand même petit à petit confiance quand je regarde aussi derrière moi tout ce que j'ai réalisé. Et puis, je dirais aussi dans certains retours, même de mes pères, qui me disent « Ah, mais dis donc, t'as fait plein de choses ». Des fois de faire un peu la rétrospective, je me dis en fait ma structure, j'ai produit tant de spectacles, tant d'albums, j'ai fait ci, j'ai fait ça, puis je me rends pas forcément compte de tout ça, mais peut-être c'est pas si mal parce que comme ça je conserve, pour moi l'humilité c'est quelque chose qui est extrêmement important. Moi je fais tout ça parce que je peux pas faire autrement que de faire ça.
C'est en toi.
Ouais. C'est en moi. Ouais. C'est comme ça. Je l'ai d'une certaine manière, je l'ai toujours fait. Et c'est Rilke qui disait dans les lettres à un jeune poète, et il avait le jeune poète qui lui disait « Mais comment savoir si je suis un écrivain ?» Alors, pardon Rilke, parce que je vais citer ça un peu à ma façon, mais en gros, il disait « Si tu peux pas faire, faire autrement que d'écrire, autrement tu vas mourir, c'est que tu es un écrivain, puis écris. Si ça n'a pas cette place dans ta vie, n'écris pas. » Donc pour moi, c'est ça. De toute manière, même s'il n'y avait plus jamais de concert et que tout s'écroulait, je continuerais à écrire des chansons et je continuerais à faire ce que je fais. En espérant trouver un moyen d'avoir un contact avec le public quand même.
Écoute, on arrive à la fin de l'épisode. Je voulais juste te demander, vu qu'on a parlé un peu des défis de l'artiste entrepreneur, on va dire ça comme ça. On a parlé de travail invisible, on a parlé aussi de ces différentes casquettes du rôle de chef d'orchestre. Est-ce que d'après toi, il y a d'autres défis auxquels sont spécifiquement confrontés les artistes par rapport peut-être à d'autres catégories d'entrepreneurs?
Pour moi, un des gros défis, on l'a un peu évoqué, c'est que quelque part, chanteuse et songwriter, j'écris des choses qui sortent de moi. En plus, j'utilise ma personne pour être un instrument de musique. Et je pense qu'il y a un défi autour d'un équilibre assez juste entre, d'avoir, à part certains moments, la peau un peu dure pour encaisser certains trucs. Et puis, en même temps, j'ai une hypersensibilité de base, mais c'est quelque chose que je développe et que je développe encore parce que c'est ça qui me permet de sentir, d'interpréter. Donc ça, c'est un défi, je pense. Ouais, je vends pas des chaussettes extraordinaires avec un bout magique qui fait qu'on n'a jamais de trou aux gros orteils, quoi. Je vends quelque chose qui est proche de mon âme. Et je pense que le défi, c'est de ne pas vendre son âme. Quand bien même, il y a des histoires de bluesman qui ont vendu leur âme au diable. Mais je veux dire, je veux pas vendre mon âme, mais je vends quelque chose qui a quand même à voir avec mon âme. Donc, c'est comment est-ce que je me situe comment est-ce que je me situe là et de nouveau, là, de repartir sur un album, c'est de nouveau ça. Parce que dans ce que j'écris, ben, bien évidemment, il y a des choses qui viennent de ce que je peux ressentir ou vivre, puis de ce que j'observe aussi autour de moi. Et c'est un savant mélange
entre tout ça
pour que les gens ils se demandent si c'est moi ou si c'est pas moi. Mais c'est, je pense que ça, c'est quand même une spécificité. Et puis, je terminerai là-dessus. Je pense qu'il y a une grosse spécificité, malheureusement, très mise en avant actuellement, dans le contexte actuel. C'est que la culture et l'art, et ça, c'est le moment coup de gueule militant qu'il ne faudra pas couper au montage.
Je t'en prie.
Je crois que l'art et la culture est malheureusement, politiquement parlant, considéré comme quelque chose d'accessoire, alors que pour moi, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Et quand la Confédération dit « Ah, ben, on a débloqué tant de millions pour la culture », en fait, c'est des clopinettes. C'est des clopinettes. Et je pense qu'un peuple, un pays, un peuple qui perd ses artistes et qui perd sa culture, perd son âme. Donc, je pense que je continuerai à... De toute façon, je continuerai à être une artiste quoi qu'il advienne.
Pour conclure, est-ce qu'il y a un apprentissage et ou un conseil que tu souhaiterais partager ici dans cet épisode ?
Je crois que de croire en soi, de pas se laisser arrêter. Enfin, je pense que si on a, c'est comme une petite lumière. En fait, c'est une petite lumière qui des fois est toute petite et puis qu'on se dit elle va s'éteindre, mais il faut la protéger comme un trésor. Et puis ça, je crois que même pour d'autres secteurs de l'entrepreneuriat, au départ, il y a ça. Pour se dire, je veux plus de patron, ou je vais croire que les chaussettes au bout magique, c'est top, les fameuses. Je vais demander un pourcentage s'il y a quelqu'un qui reprend l'idée.
Qui pose le brevet.
Exactement. Non, mais c'est ça, c'est de garder, de veiller. Puis je pense qu'artistiquement, c'est encore plus important, c'est de veiller sur son âme et de veiller sur cette petite flamme qui peut venir grande, mais qui peut être toute petite, mais vraiment de veiller dessus comme un trésor.
Comme quelque chose qui est vraiment précieux.
Quelque chose qui est vraiment précieux, ouais. C'est pour ça qu'il ne faut pas vendre son âme.
Absolument. On conclura là-dessus. Merci beaucoup.
Merci infiniment.
On arrive ainsi à la fin de l'épisode. J'espère que cet entretien vous a plu et que le parcours partagé aujourd'hui aura été source d'inspiration. Vous pouvez retrouver Genuine Woman sur le site genuinewoman.ch ainsi que sur Facebook et Instagram. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode.